J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi au Kasaï Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole pendant ces 57 minutes interactives. Ce matin, une forte pluie s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Dans un tweet de la police, 3 morts sont signalés à Salongo ainsi qu'à Livoulou. Par ailleurs, au sud d'Ubangi, les inondations des dernières pluies ont aussi causé non seulement des dégâts matériels, mais aussi des nombreux sans-abri. Notons que la RDC fait face à plusieurs besoins humanitaires à chaque événement dû à une catastrophe naturelle. Voilà pourquoi il a été créé depuis 2018 un organisme public de gestion des fonds humanitaires en République démocratique du Congo. Une année après, quel est l'impact de cette structure dans la gestion des catastrophes en RDC? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de commenter ces sujets sur son opportunité et par rapport à ce qui vient de se passer ce matin sur www.radiokapi.net ou également sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Polydor Basunga, Nico Kalambaï concourt à la production et à la réalisation de cette émission coordonnée présentée par JR Lungembo Labung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
D'entrée de jeu, nous recevons dans ce studio Dr Emmanuel Lukombe qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes coordonnateur de l'AEGPH, entendez par là l'agence de gestion des fonds humanitaires en RDC. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Espoir Machindano qui est le chef de département en charge des droits humains, droits internationaux et humanitaires. Bonjour Espoir.
Oui, bonjour monsieur.
Alors d'entrée de jeu, ça fait une année que l'agence existe. Est-ce que c'était vraiment opportun de pouvoir créer cette agence, docteur?
Oui, c'était opportun de créer cette agence parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo devait entrer dans le monde humanitaire conformément à la résolution 46/190 du 19 décembre 1991 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence, spécialement à son point 4, et les recommandations du sommet mondial d'Istanbul en 2016 pour sur l'action humanitaire en mettant en place une agence dénommée, un organisme public dénommé agence de gestion des fonds humanitaires pour répondre aux besoins de ces terrains.
Alors, au regard de besoins humanitaires présentés par la RDC, en ce qui concerne d'ailleurs la gestion des catastrophes naturelles, si nous prenons juste le cas des inondations causées par les différentes pluies, on se rend compte que le problème est immense et ça demande quand même des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un cadre national sur lequel repose d'ailleurs cet arrêté créant, disons, cette agence?
Oui. Pour votre information, l'agence des fonds humanitaires a été créée par décret numéro 18/015 du 3 mai 2018 qui a pour objet la gestion, le suivi, le contrôle des fonds humanitaires mis à sa disposition. Elle est composée de 3 organes, dont le comité de pilotage, la coordination et le secrétariat. Par rapport à chaque organe, le comité de pilotage est l'organe d'orientation et de contrôle des décisions de l'agence. Il détermine le programme de l'agence, arrête les budgets et approuve les états financiers des faits d'exercice.
Mais dans les cas concrets, Espoir, quel est l'objectif poursuivi? Diminuer ou gérer de manière durable les catastrophes naturelles? Je prends les cas aujourd'hui avec 3 morts sur la ville de Kinshasa après cette pluie. Et une année après, quel est le bilan qu'on peut faire de cette agence?
Eh bien, il faut d'abord comprendre l'environnement qui a été, qui a vu, dans lequel a vu naissance l'agence de gestion des fonds humanitaires. comme venait le dire le coordonnateur de l'agence de gestion des fonds humanitaires, l'agence a été créée par décret du Premier ministre en 2018. Et 2018, c'était l'année de l'organisation des élections. Et tous les efforts du gouvernement, ou les gros des efforts du gouvernement, étaient focalisés à la tenue des élections. Après la tenue des élections, un gouvernement réellement effectif a tardé à voir le jour. C'est récemment que le Premier ministre a été nommé par le président de la République. Et le Premier ministre n'avait pas directement mis sur place un gouvernement pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations, ces attentes ou les besoins des populations sur le terrain. C'est plus récent qu'il y a eu un groupe, un gouvernement complet. Et il n'y a pas tard que la semaine passée, que le budget du gouvernement a été déposé et défendu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et donc, vous voyez les facteurs qui entourent la naissance de l'agence de gestion des fonds humanitaires. Mais comme tout est déjà en œuvre, et donc il y a vraiment des rassurances.
Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de cas, des dégâts qui ont été causés par des catastrophes naturelles. Et comment l'État congolais a pu gérer cela? Je prends le dernier incident dans les Bas-Congo, dans le Congo central, où il y a eu vraiment un besoin humanitaire important. Au sud d'Ubangi, je venais de le dire, les inondations qui ont apporté des maisons, qui ont laissé même des familles sans abri. Alors, comment l'État a géré, en attendant que tous les contours, les limites de la création de l'agence ne soit, que cette option soit levée?
Eh bien, il faut comprendre que le gouvernement a déployé des équipes pour aller
voir. Parce que signalons que vous êtes une structure des affaires sociales.
Non. L'agence, pour votre précision, l'agence, c'est un organisme public qui a à sa tête un comité de pilotage constitué non seulement du Premier ministre, du ministre ayant dans ses attributions l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, du ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, du ministre de la santé, du ministre du plan, du ministre des finances, du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires humanitaires et solidarité nationale, du ministre ayant dans ses attributions, si je ne m'abuse, la santé aussi. Et donc ça fait un total des 9 ministres. 9 ministres plus le Premier ministre. Et donc, il est difficile de dire que l'agence est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales ou des Affaires humanitaires, mais sous la tutelle d'un comité de pilotage composé de ces différents ministères.
Voilà. Donc, les fonds humanitaires. Aujourd'hui, si on évalue les besoins humanitaires, est-ce qu'on peut oser quand même d'évaluer les besoins humanitaires aujourd'hui, docteur?
Oui. Je pense que pour répondre aux besoins de sur ce terrain, il y a lieu de répondre aux différents besoins qui sont identifiés sur ce terrain. Parce qu'on ne peut pas répondre aux sinistrés sans savoir quels sont les besoins les plus éminents. Parce qu'on doit réinsérer la population qui a été sinistrée. On doit les faire vivre une vie normale.
Parce qu'il n'y a pas que des dégâts causés par des pluies. Il y a aussi des problèmes de réinsertion. Si je vois l'arrêté, créant cette agence, il faut gérer également la réinsertion des déplacés, la réinsertion des démobilisés et tant d'autres problèmes. C'est pourquoi il y a plusieurs ministères qui entrent en ligne des comptes.
Oui, il faut savoir que l'agence a été créée sur proposition des 5 ministres faisant membres du comité pilotage. Nous avons le ministre ayant l'intérêt à la sécurité et affaires coutumières. Nous avons le ministre de la solidarité et action humanitaire dans ses attributions. Le ministre ayant la défense nationale, ancien commandant des sessions dans ses attributions. Le ministre ayant les finances dans ses attributions. Le ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. Et ce sont ces 9-5 ministres qui ont proposé la création de l'agence pour répondre aux besoins du terrain.
Voilà, on va ouvrir les standards et accueillir les autres auditeurs qui ont émis les vœux de pouvoir commenter ces sujets dans le cadre de suivi, contrôle et gestion des catastrophes naturelles avec ces fonds humanitaires qui a été créé aujourd'hui au regard des besoins humanitaires. Et qu'est-ce qui est fait une année après? Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est opportun de pouvoir outiller cette agence des moyens nécessaires afin de résoudre les difficultés que nous avons pour donner des réponses aux besoins humanitaires. Marcel, vous êtes à Luisa, lui, vous êtes à Kikwit et Jérémy à Lubumbashi. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Marcel, vous êtes à Luisa, bonjour.
Bonjour, Monsieur J.R., bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Bonjour également aux deux invités, au Dr. Emmanuel Rombe et Monsieur Espoir Chindano qui sont sur les plateaux de Radio Capi.
Est-ce que vous pensez que c'est quand même important d'avoir cette agence et une année après, quel est l'impact de cette structure dans la gestion des catastrophes en RDC?
Monsieur Julien, merci d'ailleurs de la thématique. Il faut vous rappeler que l'impact de cet organisme devrait être vraiment important. Mais vous allez suivre avec moi mes invités, Monsieur Docteur Emmanuel, qui a commencé à dire, il a circonscrit le contexte
de la création, oui,
socio-économique de la création de cet organisme. Ce qui fait déjà que il parle déjà de la raison pour qu'on puisse l'évaluer une année après, parce qu'on devrait l'évaluer en connaissance des causes. On devrait d'abord voir les contextes dans lesquels cette histoire a été créée et aussi ce qui a été alloué à cet organisme, en sorte que à la fin maintenant d'une année après qu'on puisse l'évaluer. Mais vous avez compris qu'il a circonscrit quelques circonstances qui ont fait que peut-être cela ne puisse pas être bien.
2018, une année électorale et les efforts étaient consentis pour les élections. C'est ce qui a fait qu'il n'y avait pas de moyens.
C'est qu'il n'y avait pas de moyens. Donc là, déjà, il est en train de nous épargner afin que nous puissions pas faire une évaluation. Sinon, ce sera une évaluation biaisée. Qu'à l'étienne, monsieur J.R., une année après l'impact de cet organisme public de gestion humanitaire en République démocratique du Congo, à mon niveau, il faut remettre d'abord en question son impact, parce que son impact est à remettre en question, parce que non seulement il n'existe pas, mais aussi et surtout, cet organisme a été inefficace, inactif et indifférent à ses objectifs qui lui ont été assignés. Pourtant, la création d'un tel organisme est salutaire pour faire face aux catastrophes. Vous allez voir, même aujourd'hui, le matin, si vous avez seulement à la radio au café chez vous là, il y a eu des cas. Est-ce que si nous pouvons demander à cet organisme quelle est déjà l'intervention palpable qu'il a déjà fait pour, n'est-ce pas, venir en aide aux sinistrés, ils ne vont pas nous dire qu'ils ont déjà fait quelque chose par rapport à cela hier. Alors, et aussi, cet organisme-là, se limite à quel niveau, parce que la RDC n'est pas Kinshasa, M. JR. La RDC, c'est Luisa, la RDC, c'est la province orientale, la RDC, c'est le Lualaba. Et alors, si maintenant, là, il y a un cas de sinistré à Luisa ici, comment peuvent-ils faire pour venir, parce qu'il y a des problèmes chaque jour, même maintenant, après la pluie de chaque jour ici à Luisa, il y a toujours des catastrophes pour lesquelles les gens ne sont pas. C'est déjà un problème, c'est-à-dire, c'est déjà les passifs des organismes parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se déroule à l'intérieur du pays. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je pose une petite question aux invités pour dire comment pensent-ils s'y prendre éventuellement pour venir en aide aux sinistrés? Et alors, deux questions. Que faire pour que l'aide destinée aux sinistrés parvienne réellement aux concernés, aux individus? Parce que, M. Gilles, vous allez remarquer que quand il y a un problème de sinistrés, cet argent alloué aux sinistrés-là, ou bien cet argent-là entre dans les poches des individus, soit les responsables, soit les chefs de quartier, soit les administrateurs des territoires, ou les gens qui sont responsabilisés pour qu'ils puissent faire parvenir cet aide-là aux sinistrés.
Merci beaucoup, Marcel, parce que là, vous redoutez que c'est l'argent qui sera alloué pour les sinistrés et puisse servir de frais d'installation, des frais de fonctionnement de cette agence et au détriment, aux grandes dames des sinistrés qui en sont des premiers bénéficiaires. Merci beaucoup, Marcel Didier Passois de Luisa. Lui, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, à vos invités aussi.
Alors, quels sont les préalables pour vous, pour que finalement les travaux de cette agence dans le cadre de la gestion des catastrophes, la prise en charge des sinistrés, également puissent être efficaces et durables?
Oui, je disais que créer un organisme de telle ampleur, c'est bon, Mais la question est de savoir combien de fonds le gouvernement congolais avait mis à la disposition de cet organisme pour mener à bien sa mission. C'est cette question-là qu'il faut d'abord se poser. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de parler de l'impact de cet organisme, il faut parler en termes des fonds qui avaient été mis à leur disposition et maintenant à son impact. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, l'organisme créé est comparable à une...
Oui,
à une
mais quand je lis parfois l'arrêté, disons le texte, hein, le décret créant cette structure, l'article 6 qui dit « Les ressources de l'agence proviennent, entre autres, des allocations budgétaires de l'État ». Et Espoir venait de vous expliquer les contours de la création de cette structure, disons, vers l'année 2018, avec... l'année qui était décrétée, l'année électorale, mais aussi les ressources entrent dans le cadre de la solidarité nationale et internationale. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe, on appelle aux gens de bonne foi et prix des solidarités de pouvoir contribuer et des subventions diverses ou encore des dons et des legs. Alors, est-ce qu'à ces jours, au lieu d'attendre seulement que les budgets, qu'il y ait une part allouée au budget, est-ce qu'au niveau de l'agence, ils ne peuvent pas, si je comprends votre souci, mobiliser à leur manière les fonds pour aider les sinistrés?
Bon, mais c'est ça le problème. Mais comment est-ce que l'agence va mobiliser des fonds seule comme ça? Mais je pense que c'est le gouvernement qui devrait mobiliser les fonds pour donner à l'agence afin de mener à bien sa mission. Je pense que c'est ça. Parce que l'agence en question est comparable à une image qu'on doit animer pour accomplir des mouvements. Mais sans cette animation, est-ce qu'une image peut faire des mouvements? C'est ça le problème aussi. Avec tout ce tas de problèmes de catastrophes et autres situations d'urgence qui s'abattent sur la RDC, il faudra beaucoup de fonds pour y faire face. Il faudra beaucoup de fonds, mais c'est ça, c'est là le problème. Je pense que c'est le gouvernement qui devrait s'atteler à chercher tous ces fonds-là et à mettre à la disposition de cette agence. Voilà.
Voilà. On sait que l'action humanitaire ne perde pas son caractère urgent, d'où, comme vous venez de le dire, il faut un mécanisme de décaissement fiable et rapide pour aider vraiment à répondre à ces besoins humanitaires. Merci beaucoup, Louis, d'avoir appelé Dekikwit. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, M. JR. Bonjour également à nos invités. Je pense que le sujet vaut son pesant d'or parce que vous êtes sans ignorer que même là à Kinshasa, parce que nous déplorons tout ce qu'il y a eu, les relatifs bien sûr aux pluies, Lubumbashi n'est pas du reste parce que nous avons eu aussi à subir le même cas il y a peu. Il y a eu un vent jamais vécu il y a 5 ou 6 ans. Alors on a beaucoup déploré parce que ça a emporté au passage vraiment, il y a beaucoup de situations alarmantes au jour d'aujourd'hui à Lubumbashi. Bon, tout ça, nous ne savons pas si nos autorités sont là, peut-être pour prendre certaines dispositions. Revenons-en maintenant quant à la gestion de cet organisme. Je pense que le tableau n'est pas tellement positif, hein, dans la manière de le dire, parce que moi je ne pense pas qu'il n'y a que l'organisme à lui seul qui doit peser, hein, du tout dans la balance, parce que c'est lui qui définit la politique d'un pays, c'est premièrement le gouvernement. Donc il a bien sûr certains appuis à gauche, à droite. Et également, j'attribue aussi beaucoup de situations, bien sûr, aux élus du peuple, parce que vous savez qu'ils ont été élus, ils ont reçu les mandats du peuple, et ils ne peuvent pas en aucune fois croiser les bras dans leur hémicycle respectif pour ne pas, pour rester impuissants devant des situations telles que d'ordre humanitaire qui frappent plus d'un Congolais. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment alarmant, on assiste vraiment à des situations. Il y a beaucoup de sinistrés à gauche, à droite, les gens frappés par les inondations, tout ça, je ne sais pas si...
Oui, Jérémy,
il y a beaucoup de ministères.
Oui, Jérémy, parce qu'il y a une question qui est posée, parce qu'on on sent qu'autour de la création de cette agence, il y a quand même plusieurs ministères pour dire que le problème, il est transversal. Mais alors, comment se fait-il que lorsqu'il y a une catastrophe, comme nous venons de connaître ce matin à Kinshasa, ou encore ailleurs au sud du Bangui, on crée un comité de crise, mais on met de côté d'autres personnes qui pouvaient les faire?
c'est là que j'allais en venir. Parce que vous savez, s'il y a beaucoup de ministères qui concourent à cette ceinture, mais pourquoi ne pas allouer un budget conséquent? C'est pourquoi j'ai interpellé, bien sûr, les élus du peuple. On ne peut pas rester impuissant devant cette affaire non plus. On doit voter un budget conséquent qui a trait, n'est-ce pas, à la rubrique humanitaire, parce que chaque jour, quand la pluie vient, elle ne prévient pas. Et l'État ne peut pas rester pantois non plus. L'État doit agir. Et agir, ce n'est pas le président lui-même qui doit aller à gauche, à droite. Il y a un gouvernement qui est en place. Il y a beaucoup de ministères autour de cette affaire.
Merci beaucoup, Jérémy. Parce que là, ça relance également les débats autour des grandes réunions, des grands meetings qui se sont tenus, en tout cas, les années passées, notamment l'année 2018, sur la question humanitaire, des fonds à mobiliser pour la RDC. Et c'est ce qui avait même poussé parmi les recommandations qui ont été prises, et il était impérieux pour l'État congolais de créer une structure pouvant gérer ces fonds. Alors aujourd'hui on y est, mais on se rend compte que finalement la question elle est vraiment, constitue une question, une équation très difficile pour la RDC. Faute des moyens, l'agence ne peut rien faire, mais tout en mettant sous place des comités des crises, et ces comités parfois n'arrivent pas à toucher de fond les problèmes, les besoins humanitaires. Merci beaucoup Jérémy. On va prendre Justin qui est à Fungourou, mais avant de retrouver nos deux invités, Jérémy, Justin, vous êtes avec nous à Fungurume. Bonjour.
Bonjour mon ami JR, et je dis bonjour à nos deux invités et à tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent en ce net moment. Moi je salue avec bravoure l'agence de gestion humanitaire. C'est une bonne chose parce que ça va rejoindre avec la prévention qui coûte moins cher que la réparation. Quand on a vu et on se prépare déjà dans des conséquences, ça n'arrive pas chaque année. Laisse-moi, messager, de partager l'expérience de notre fameux Tenke Fungurume Mining qui a mis en place comment gérer les dangers. On définit l'accident comme un événement imprévisible capable de causer des dégâts matériels, environnementaux et même fatals. Comme on a eu à Kinshasa les pertes en vies humaines, c'est déjà l'accident fatal. Et il y a même des dégâts, les routes qui sont vraiment peut-être abîmées, les arbres, donc ça constitue déjà l'accident. Et cet accident, avec les fonds-là, TFM a mis en place les gens contrôleurs des accidents. Ils appellent les agents des CERT. CERT qui cadre avec l'hygiène, santé et sécurité du travail. Nous savons que là, à Kinshasa, vous êtes dans un climat tropical humide. Il fait terriblement chaud. Et quand il y a la chaleur, une forte chaleur, donc la pluie va pleuvoir abondamment. Et on va pas oublier de s'attendre à des érosions. Alors, avec ces fonds, on ne va pas seulement répondre aux catastrophes, qu'on pense aussi à prévenir les catastrophes. Puisque quand les gens de cadastre vont distribuer les terrains, à Kinshasa, on ne peut pas construire anarchiquement, ce sont les terrains que les gens de cadastre ont distribués, et le ministère de l'affaires foncières qui regarde en train de les gens en train de bâtir des maisons, là où les maisons présentent déjà un danger permanent pour toute une famille. Mais on les laisse, même s'il y a 2 ans qui vont se passer, sans fois avoir l'érosion de ces côtés-là, mais on les regarde comme ça, après des catastrophes. Là, vraiment, ça revient à l'agence de mettre en place ou ça faire des plaidoyers au gouvernement, avoir un fonds. C'est important vraiment. Parce qu'on ne peut pas se marrer.
Si je comprends bien, Justin, l'agence doit sortir de ce caractère d'action préventive, urgente, mais plutôt travailler aussi dans le cadre des préventions, d'où il lui faut beaucoup de moyens.
Oui, effectivement. Donc les moyens eux-mêmes ne vont pas passer à la population collecter de l'argent pour prévenir des dangers, non. C'est le gouvernement qui doit les doter les moyens pour prévenir. C'est très nécessaire vraiment, M. JR. Et si c'est garder silence, en cas de l'accident, on commence maintenant à tendre la main. Et la main, peut-être l'argent qui viendra avec un grand retard. Et même pour l'enterrement, il y a même des familles qui ont perdu les leurs, qui n'ont pas même le moyen d'acheter les cercueils et tout consort. Et même les enfants restés, ils seront sans abri. Et l'argent qui viendra peut-être avec un grand retard.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Justin. Alors, on revient à vous dans ce studio, docteur Lokombé. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, quel est votre commentaire après avoir suivi ces propos?
Oui, merci les journalistes. Je pense que nos auditeurs ont parlé de beaucoup de choses, mais nous voulons quand même les tranquilliser. Nous commençons par d'abord dire pourquoi le gouvernement congolais avait créé l'agence. Après analyse critique du contexte humanitaire dans les pays, trois facteurs majeurs vont justifier la création de l'agence de gestion des fonds humanitaires. Premièrement, le contexte humanitaire de la RDC, très critique, marqué essentiellement par le déplacement des populations suite aux activités des groupes armés d'une part, et d'autre part la recrudescence des épidémies, les calamités naturelles, les sécurités alimentaires, et j'en passe. Deuxièmement, la détermination du gouvernement congolais de lutter contre les causes à l'origine des crises humanitaires et de leur prolongation en RDC, avec l'option de transition de l'aide humanitaire vers les projets de développement durable. Et troisièmement, la nécessité de créer un cadre permanent d'intervention de l'État en vue de la réinsertion sociale des personnes frappées par la catastrophe. C'est là où je dis pourquoi on a créé l'agence. Alors, par rapport à cette agence qui venait d'être créée, quelle est sa mission? On a dit que sa mission est le suivi, la gestion, le suivi et le contrôle des fonds mis à sa disposition. Pourquoi? Parce qu'elle doit procéder à la réinsertion efficace et durable de tous les Congolais qui ont connu la rupture conjoncturelle avec leur cadre normal de vie, notamment les personnes frappées par les catastrophes naturelles, les personnes déplacées, les refoulées, et retourner les anciens militaires démobilisés. Alors, quand vous regardez tout cela par rapport à la création, la motivation de la création et de sa mission, vous allez voir que dans la composition de l'agence, on a dit nous avons le comité de pilotage, nous avons la coordination et le secrétariat. Alors ici, le comité de pilotage, c'est l'organe, nous l'avions dit, d'orientation et de contrôle des décisions de l'agence et détermine le programme de l'agence. C'est pourquoi nos auditeurs doivent se calmer, parce que si aujourd'hui le comité de pilotage est convoqué par le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement et président de ce comité de pilotage, je sais, il va le convoquer incessamment. Cela, compte tenu de la situation humanitaire qui se vaut dans les pays actuellement.
Et surtout la situation qui vient de se passer ce matin, également, la pluie qui a causé des dégâts énormes.
C'est pourquoi il s'est tenu récemment, date du 20 novembre, une réunion d'échange entre la coordination et les délégués des ministres et membres du comité de pilotage. Le gouvernement actuel place l'homme au centre de ses préoccupations en même temps et fait face à de nombreux défis. Ne perdons pas de vue que l'aide humanitaire vise à sauver le maximum possible de vies en détresse.
Oui, en termes clairs, espoir aujourd'hui, c'est vrai, souhaiterait que l'action préventive aussi soit prise en compte. Et là, ça demande quand même des moyens.
Bien sûr, bien sûr. La meilleure façon de sauver des vies, la prévention est la meilleure façon d'agir. Et pour prévenir, il faut des moyens pour déployer des équipes sur le terrain, dans des provinces, un peu partout. Et même des moyens pour assurer la surveillance.
Oui, il y a un auditeur qui a posé, est-ce que l'action humanitaire qu'a décidé le gouvernement, ça se limitera à Kinshasa ou c'est uniquement sur toute l'étendue de la République?
Tous les Congolais, partout, ils sont même dans les Congos profonds, sont concernés par les activités de l'Agence de gestion des fonds humanitaires. C'est pour dire que les désastres, les catastrophes de tout genre se posent parfois loin de Kinshasa. C'est dans cette optique que l'Agence de gestion des fonds humanitaires aura des antennes provinciales un peu partout pour suivre de très près et pour s'imprégner de la situation qui prévaut dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Et donc, sur le plan organisationnel, tous les facteurs d'intervention rapide, efficace et durable sont déjà mis en place, les décors sont plantés. Il est tout simplement question, nous attendons incessamment et je suis convaincu que les moyens seront mis à la disposition de l'agence pour voler au secours des sinistrés qu'il y a un peu partout en République démocratique du Congo. Il y en a nombreux.
Oui, parce que là, quand nous lisons les attributions, il est demandé à l'agence d'assurer la coordination des interventions, des actions humanitaires et des réinsertions sociales. Ça veut dire quoi concrètement?
Bon, l'un des problèmes auquel le gouvernement congolais a fait face pendant longtemps en ce qui concerne les secteurs humanitaires. C'était des actions humanitaires causées d'une manière dispersée. Et actuellement...
Dès qu'il y a, un incident, il y a un problème, on voit la commission, le Parlement, disons, met en place sur pied donc une commission, les gouvernements mettent également un comité des crises, les humanitaires ou encore la communauté internationale fait aussi autant avec la coordination au niveau des OCHA. Alors finalement, les efforts sont dispersés et les résultats, il est loin d'être celui escompté.
Oui, voilà le pourquoi. Voilà donc la motivation qui avait poussé le gouvernement à mettre en place un cadre permanent pour assurer la coordination des interventions des actions humanitaires, assurer aussi la canalisation des flux financiers en vue de venir de façon prompte, efficace et durable au secours des personnes qui sont des vies qui sont en péril. Assurer la coordination des interventions des actions humanitaires veut dire quoi concrètement? La République démocratique du Congo est l'un des pays où il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans les secteurs humanitaires. Beaucoup d'associations des droits congolais, beaucoup d'associations des droits étrangers, beaucoup d'agences des Nations Unies qui interviennent. Mais la mission de venir au secours à la population congolaise incombe au premier chef, au gouvernement congolais. Ces associations-là, ces agences onisiennes et tous les partenaires multilatéraux du gouvernement congolais ne viennent qu'appuyer le gouvernement congolais qui a dans ses attributions régaliennes assurer la protection des vulnérables et de tous les citoyens congolais, venir en aide à ceux-là qui ne sont pas capables de survivre suite à certaines situations. Maintenant, pour bien faire cette mission, et l'État parfois, l'État seul ne peut pas arriver à accomplir cette mission. C'est pourquoi il y a la solidarité internationale. Il y a aussi des moyens qui sont mobilisés à l'extérieur, tout comme à l'interne. Maintenant, comment faire pour que ces moyens soient bien coordonnés et arrivent à destination? Premièrement, il faut d'abord savoir qui fait quoi. Quand est-ce qu'il va faire ceci? Il va faire ceci en faveur de quelle population? Parce qu'on risque et on risquait de se retrouver dans des situations où vous avez par exemple une cible déterminée avec 50 associations qui font la même chose. Et là, il y a des besoins qui sont ignorés ou qui ne sont pas pris en compte.
Et par conséquent, il y a beaucoup de cas de détournement. Lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a la gestion des sinistrés, il y a toujours ces refrains qui reviennent. On a détourné l'argent. Il y a des gens des opportunistes qui trouvent l'occasion pour faire affaire, docteur Lokoumbi.
Par rapport à cette préoccupation, nous pouvons dire ceci. La responsabilité première en matière d'intervention humanitaire revient à l'État congolais. Et les autres organismes, tant nationaux qu'internationaux, qui viennent en appui à ces derniers, sont appelés à collaborer avec l'agence en vue d'une bonne coordination des activités sur terrain. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'agence sera informée de toutes les interventions humanitaires menées sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. À ce titre, il est l'interface de l'État congolais auprès des acteurs humanitaires, tant nationaux qu'internationaux, et vivant en RDC. En outre, dans ce même ordre d'idées, toutes les organisations humanitaires sont tenues à mener des actions conjointement avec l'agence. Voilà pourquoi l'importance des cadres de concertation. Au niveau des cadres de concertation qui est déjà mis en place, c'est de là où nous aurons toutes les informations possibles et savoir au moins comment répartir les responsabilités afin qu'à la fin, nous ayons les informations uniques que nous pouvons rendre au niveau du gouvernement congolais.
Voilà, on va poursuivre ce débat avec d'autres auditeurs qui veulent participer à cette émission et même ceux qui ont commenté ces sujets sur notre page Facebook. Nous rappelons que si vous venez à peine de nous rejoindre, vous pouvez également participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 sur l'opportunité ou non de cette création de l'agence de gestion des fonds humanitaires par rapport à tous les besoins humanitaires auquel fait face la RDC 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Je suis Madame Benaka Bamba Laetitia, commissaire générale en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables dans la ville-province de Kinshasa. Quinoises et quinois. Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan. Kinshasa Bopeto est un programme, un état d'esprit, une philosophie de vie qui renvoie à un être nouveau. En effet, rien ne peut justifier les violences sexuelles faites aux femmes, aux petits-enfants et aux jeunes filles. En conséquent, rien ne devrait innocenter l'auteur d'un viol. Vrai kinoa azali moto oyo azwaka mwasi na makasite. Alandarape banamikete. Aucune violence faite à la femme et à l'enfant ne peut être justifiée ni tolérée. Toute forme de violence doit être condamnée. Kinshasa dit non, non, non aux violences faites aux femmes. Ensemble pour la dignité de la femme et de la jeune fille. Appelez le 116, un numéro vert et gratuit pour dénoncer toute forme de violence sur la femme, la jeune fille et les petits-enfants. Benga 116 est un numéro yaofele pour nakofunda violence nyonso bakosala na mwasi na elenge mwasi pe na mwana nyonso ya moke.
Ceci est un message du Commissariat général des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Ce matin, une forte pluie s'est abattue sur la ville, province de Kinshasa, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Dans un tweet de la police, 3 morts sont signalés déjà à Salongo et à Livoulou. Par ailleurs, au sud de Ubangi, les inondations des dernières pluies ont aussi causé non seulement des dégâts matériels, mais aussi des nombreux sans-abri. Notons que la RDC fait face à plusieurs besoins humanitaires à chaque événement dû à une catastrophe naturelle. Voilà pourquoi il a été créé depuis 2018 un organisme public de gestion des fonds humanitaires en RDC. C'est où en est-on une année après? Simon, vous êtes à Kananga, Antoine Abounia. Simon, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ouais, bonjour J.R. Lungembo, bonjour également à notre invité et à tous les auditeurs à travers le pays.
Quel est votre avis, Simon?
Ouais, merci J.R. Hein, de m'avoir associé pour la énième fois à votre émission. Je pense que le sujet est un peu pertinent, hein, vu la situation actuelle que traversent les Congolais, comme vous venez d'ailleurs de le dire tout de suite. Partant de cette agence qui a été mise en place par le gouvernement congolais, je pense que les actions sur terrain sont inexistantes. Hein, c'est quasi inexistant parce que, moi d'ailleurs je vous parle ici, c'est hier que j'ai su qu'il existait une telle agence dans ce pays. Parce que nous remarquons par exemple ici au Kasaï, il n'y a pas longtemps où nos frères kassaïens ont été expulsés d'Angola. Et on a cherché même qui pouvait leur venir en aide, ni peut-être quelques fonds alloués par le gouvernement central, malheureusement, très mal dispatchés selon les mésententes qu'il y a entre le gouvernement du Kassaï central et du Kassaï à Tshikapa. Donc ça prouve à suffisance que cet organisme-là, bien que c'est à une année, mais le bilan prouve qu'ils sont quasi inexistants. Et il n'y a pas même longtemps, hier, là, nous avons suivi l'émission à la radio RTNT à Ndjokopunda, dans le Kasaï, combien nos frères ont connu une ouranga qui a même emporté plusieurs quartiers d'une école où aujourd'hui beaucoup d'enseignants sont même renvoyés au chômage et les élèves ne savent même pas aller au cours. Et tout ce monde-là crie le secours. Je ne sais pas si cette agence est toujours au contrôle pour savoir tout ce qui se passe pour leur venir en aide. Parce que pour l'instant, il y a les besoins. Mais nous ne pouvons pas ce que cette agence a déjà fait. Alors, mon point de vue que je voudrais émettre à ceci, comme c'est le gouvernement lui-même qui avait mis en place cette agence, mais qui semble être inefficace, je voudrais, moi, si le gouvernement pouvait encore, bien évidemment, accorder encore plusieurs chances, nous tous nous les accordons, mais que cela soit installé, de sous-agences soient installées presque dans toutes les provinces. Comme ça, on saura suivre un peu de plus près toutes les activités ou toutes les catastrophes naturelles qui se passent. Comme ça, on pourra bien venir en aide aux concernés. Voilà un peu mon intervention que je voulais.
Merci beaucoup, Simon, d'avoir appelé des Kananga. On prend Antoine qui est à Bounia. Antoine, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, vous me recevez?
Très bien. Vous avez la parole. Quel est votre commentaire, Antoine?
Bon, moi je me pose la question parce que je me demande même pourquoi vous avez mis ce thème aujourd'hui, parce qu'il a plu à Kinshasa, parce qu'il y a un mois ou un mois plus au niveau de Norubangi, ça ne marchait pas. Moi je suis vu à la France, disons à la télévision France 24, j'avais suivi, c'était la France 24 faisait l'information sur Bangui, la capitale centrafricaine. Je ne savais pas si chez nous on avait aussi connu cela, mais je disais à madame, comme Bangui là-bas, c'est tout près du nord Bangui, donc chez nous aussi il y aura des problèmes. C'est
pas Antoine, peut-être que vous nous avez pris en cours de l'émission, nous avons évoqué aussi le cas des Sud Bangui tout à l'heure, en évoquant la situation de ce matin sur la ville province de Kinshasa. Nous avons pris en tout cas des cas isolés. Il n'y a pas que le Sud Bangui. Vous venez de suivre à Luisa un cas, à Djokopunda, au Kassai, où la question a été d'abord difficilement gérée entre le gouvernement du Kassai et celui du Kassai central, donc pratiquement des conflits et beaucoup de cas de détournement. Mais alors, le gouvernement avait pensé en son temps mettre sur pied une coordination pour des besoins humanitaires. Alors, une année après, on sent qu'il y a déjà toujours des problèmes. Alors, quels sont les préalables pour qu'on arrive finalement à gérer de manière efficiente, efficace et durable cette question de gestion des catastrophes?
Je me pose la question, est-ce qu'il n'y aura pas une cacophonie dans les têtes des Congolais? Parce que nous savons que c'est le ministère qui gère ça.
Voilà.
Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, allez-y, on vous capte. Très bien.
Oui, donc quand nous voyons sur d'autres sièges, c'est le ministère qui gère ça. Chez nous, vous voyez, bon, quand je dis ça, j'ai donné l'exemple de nos banquiers, ça fait un mot plus. La population est en train de pleurer là-bas, pas même hier, j'ai vu une maman qui est en train de dire, nous demandons au Sengi ministre Aya Kosadi Sabiso. Sous d'autres yeux, ça ne dépasse même pas plus de 48 heures, ils ont la solution. Moi, personnellement, ici, quand j'entends ceci, je suis confus, je me demande, au fait, c'est le ministère qui va gérer ça, c'est l'agence. Comment ça va se passer? Qui nous explique bien les invités?
Tout qui nous explique
comment est-ce qu'ils vont collaborer avec le ministère?
Les cadres de concertation, la collaboration. Parce que c'est quand même une question transversale. Vous avez raison, Monsieur Antoine de Pibounia. Nous l'avons dit tout à l'heure. Pour l'exécution des attributions visées, à l'article 3 de décret créant cette agence, il est bien dit que l'agence veille au mécanisme de décaissement fiable et rapide pour que l'action humanitaire ne perde pas son caractère urgent. Parce que nous savons que les catastrophes ne sont pas prévisibles, n'est-ce pas? Surtout les catastrophes naturelles. La pluie, on ne peut pas dire quand est-ce que ça va tomber. Quand nous avons prévu ce sujet, on ne savait même pas non plus qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. Et voilà qu'il y a déjà des dégâts. Et comment l'État doit s'y prendre en ce moment pour gérer toute cette question qui arrive de manière impromptue?
Est-ce que chez nous, vraiment, est-ce qu'ils vont décaisser urgentement? Est-ce qu'ils vont acheter des hélicoptères comme on voit ailleurs? Des avions bombardiers? Je me demande si ça va se passer comme ça, parce que nous avons toujours ces habitudes-là de retard hier. Nous avons un problème de gérance. Vous voyez, ils ont créé ça il y a une année. On attend jusque-là, à l'entendre parler, ils n'ont même pas de fonds, si je ne comprends pas. Alors la population est en train de souffrir. Est-ce qu'ils vont commencer à agir urgentement? Est-ce qu'il y aura des avions bombardiers comme on voit sous d'autres cieux? Est-ce qu'il y aura des hélicoptères pour évacuer les malades? J'ai suivi hier, il y a même un cas d'hémorragie. On a envoyé un échantillon à Kinshasa pour voir si on va trouver l'Ebola. À Norubangui, là-bas. Je me demande qu'il nous explique très bien comment ça va se passer. Il parle, moi, je le suis.
Voilà, parce que ça prête effectivement confusion. Parce qu'en ce moment, les ministres des Affaires sociales et humanitaires se trouvent sur place. Mais dès lors qu'il y a d'autres partenaires qui sont liés directement dans cette affaire, ils ne se retrouvent pas. Donc la question sera prise en compte et la solution de manière partielle, parce que d'autres, qui constituent les maillons de la chaîne, ne sont pas là, ne sont pas présents, et ils ne seront pas donnés aussi la réponse rapidement. Merci beaucoup Antoine d'avoir relevé cela au cours de cette émission. Alors François, vous êtes à Kananga. Bonjour François.
Bonjour Monsieur J.R.
Quel est votre avis, François?
Je voudrais vous remercier d'abord pour la parole. Moi, je suis résident d'une province qui a été fortement sinistrée, avec le tsunami Kamoyan, ça peut vous convaincre. Alors, nous sommes aujourd'hui ravis, mais en même temps perplexes d'apprendre qu'une agence a été mise en place, a été créée depuis une année pratiquement, pour gérer les fonds destinés aux causes humanitaires. Mais ici, au centre du pays, nous n'avons même pas l'information. Nous n'avons même pas aujourd'hui des indicateurs qui attestent que réellement l'État
a commencé à prendre en charge cette question qui est aussi importante. Alors moi, ma préoccupation se situe plus sur la disponibilité des moyens. Parce qu'on dit toujours que c'est l'argent. L'argent qui est le nerf de la guerre. Nous avons suivi, parce que je suis avocat, j'ai voulu sur la question humanitaire. L'année passée, le gouvernement de lui-même s'est bombé le torse. En d'autres termes. Hein.
Oui, je l'ai évoqué ici, le sommet de Genève, où les humanitaires se sont retrouvés et pour, disons, faire appel à une solidarité internationale. Voilà. Le gouvernement avait refusé, mais après cela, le gouvernement avait décidé de créer cette agence.
Voilà, et je suis précis en termes de chiffres. À moins que je ne m'abuse, hein, mais vos invités pourront donner la précision. Le gouvernement, à l'époque, avait dit, nous-mêmes, nous allons mobiliser dans un premier temps 100 millions de dollars comme un fonds de démarrage ou de départ pour le fonctionnement ou dans la prise en charge de ces questions. Et les partenaires à Genève, d'eux-mêmes, au niveau international, avaient mobilisé 468 millions. Ça, c'est les Occidentaux. Sans parler du Qatar qui était prêt à donner son aide au gouvernement. Alors, ma question, qu'est-ce que l'agence
a fait avec cet argent
premier moyen? Quel mécanisme ils utilisent, parce que c'est la continuité de l'État, même si Tshibala est parti, ils vont à Yougamba, où sont d'abord, parce que les partenaires attendent toujours la contrepartie. Quand vous commencez vous-même, eux viennent maintenant en rescousse. C'est ça ma question. À quand la disponibilité de ces 100 millions-là? Est-ce que c'est encore une promesse électorale ou démagogique? Vraiment, qui nous éclaire.
Merci.
Là, les sinistrés pourront être rassurés pour la suite.
Merci beaucoup, François, d'avoir apporté cette précision. 468 millions, souscription des bailleurs, pour, au fait, résoudre cette question de besoin humanitaire en RDC. Et là, le gouvernement avait promis de disponibiliser 100 millions. Où en est-on aujourd'hui pour que, finalement, cette question soit résolue de manière urgente et durable? Merci beaucoup, François. Étienne, vous êtes à Guémena. Bonjour et bienvenue là. Parole aux auditeurs.
Bonjour Arnaud Papi, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution, Étienne?
Oui, merci monsieur le journaliste. Je suis au chef de la province de Sidoubangui, Guémena, une province qui a été touchée par les catastrophes dont vous venez de faire allusion. Mais par rapport à l'agence de fonds, moi je suis un peu inquiet. Parce qu'on suivra l'invité dans tout ce qu'il a dit. Il ne peut que dire ce qui doit être fait par l'agence, mais ce qui a été déjà fait, l'invité ne l'a pas dit. Comme pour dire que durant toute l'année, l'agence n'a rien fourni, l'agence n'a
tourné que le pouce. Oui.
Rien du tout. Parce qu'ici, dans la province de Sidoubangui même, on ne connaît même pas qu'il existe une telle agence. Désolé. Parmi les objectifs de la création de cette agence, l'invité venait de le dire que pour secourir urgentement les cas de catastrophe. Mais malheureusement, dans la province de Sidoubangui, en commençant par la ville portuaire de Zongo, il y a eu inondation, les gens ont perdu des biens, tant de dégâts matériels, mais il a fallu tout un mois passé pour que les gens, à partir de Guémena, s'organisent pour aller assister tant soit peu les gens qui sont dans la détresse. Et puis, tout ça, la province entière, vous trouverez le cas des Zongo, par exemple. Il y a eu non seulement des dégâts, mais des pertes en vies humaines. À Koula, par exemple, les gens sont morts suite aux catastrophes, suite aux inondations, à Libengue, à Dongo. Donc, partout ailleurs, il y a eu des dégâts, il y a eu des pertes aux vies humaines, mais cette agence qui devrait secourir urgentement là, nous ne l'avons pas vu. Donc, comme pour dire que nous tournons au rond, mais heureusement quand même, nous, là, la population du Sidoubangui a commencé par secourir ses propres frères. Donc, il y a eu un comité qui a été mis sur pied, et ce comité a collecté des fonds, qui depuis la semaine était déjà à Zongo pour assister. Mais oui, merci quand même parce que hier, là, le ministre ayant sa charge des affaires humanitaires est arrivé avec des soutiens pour aller secourir ces gens-là. Mais vous comprenez que le gouvernement qui est censé protéger sa propre population, secourir au premier lieu,
Il y a déjà des difficultés. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Étienne. On va terminer avec des invités. Quelle doit être la solution aujourd'hui? Est-ce qu'il faut renforcer la mise en œuvre du plan national stratégique de réduction de la pauvreté, ou encore il faut redéfinir les cadres de collaboration en matière de développement des entités décentralisées avec cette question, ou encore définir les cadres de collaboration avec les ministères et tous les programmes de la santé impliqués dans l'intervention humaine, docteur Lokombe?
Merci, monsieur le journaliste, pour la pertinence de cette question. Tout en compatissant avec nos compatriotes touchés par les différentes catastrophes, nous rappelons à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale que le gouvernement, à travers l'agence de justice du fonds humanitaire, est tenté de mobiliser les partenaires pour réunir les fonds nécessaires afin de voler au secours de tous les sinistrés se trouvant sur l'ensemble du territoire congolais. C'est là que nous avons dit qu'à l'issue de cette émission, je pense que le premier ministre chef du gouvernement nous suit, que le président du comité de pilotage va convoquer urgentement le comité de pilotage afin que les décisions soient prises, parce que nous avons rappelé ici que nous avons dans l'agence, il y a quand même le comité de pilotage qui réunit 9 ministres. Et quand vous suivez les problèmes qui se posent sur le terrain, c'est là qu'on sont les 9 ministères ayant en charge les attributions dans cette agence ici. Et nous pensons que la convocation du comité de pilotage va faire de sorte que les forces seront mobilisées urgentement auprès des partenaires et l'agence sera une interface de l'État congolais pour suivre cette coordination sur le terrain afin de répondre aux besoins des sinistrés sur le terrain.
Voilà, et espoir, on va terminer également avec vous. La question de la politisation de l'aide. Et c'est quand même là aussi, il faut que tout soit clair, sinon finalement ce sera tel député court devant, il prend l'argent du gouvernement et il se présente d'abord à son nom personnel.
Bien sûr, l'aide humanitaire obéit aux principes humanitaires qui interdisent aux politiques de ne pas beaucoup plus s'immiscer dans l'assistance qu'il faille apporter aux victimes, aux sinistrés, qu'il y a un peu partout. Il y a le principe d'impartialité, il y a le principe de neutralité, il y a le principe d'indépendance. Et donc le gouvernement a compris tout ceci, c'est pour cette raison qu'il a dit mettre en place une agence qui est dotée d'une autonomie administrative et financière pour venir en aide aux populations victimes des catastrophes naturelles et d'autres catastrophes provoquées par l'homme. Et les animateurs de cette agence, qui est purement un outil technique pour le gouvernement, sont apolitiques. Et donc, il n'y a pas de souci quant à ce qui concerne la politisation de l'aide. Si il y a eu politisation de l'aide dans l'État, mais actuellement nous sommes en train d'avancer, il n'y aura plus politisation de l'aide. Et aussi, il n'y aura pas de souci entre la création ou les attributions qui sont dévolues à l'agence de gestion des fonds humanitaires et les ministères des Affaires sociales.
Les télescopages, les conflits de compétences entre les ministères, ça risque de subvenir à tout moment.
Il sied de rappeler à l'intention de nos auditeurs que l'agence de gestion des fonds humanitaires a été créé sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales, du ministre de la Solidarité et Action humanitaire et du ministre de la Santé. Et donc,
voilà, merci beaucoup. Un dernier mot, docteur Emmanuel.
Tout d'abord, je remercie vivement l'État congolais pour avoir créé l'agence de gestion des fonds humanitaires qui, du reste, est d'une utilité capitale en ce sens qu'elle renforce la solidarité nationale. Face aux catastrophes humanitaires, c'est chaque Congolais qui est concerné pour venir au secours de ses compatriotes.
Voilà, je considère ça comme le dernier mot, docteur Emmanuel Lokombe, coordonnateur de la GFPH, Espoir Machindano, chef de département en charge des droits humains, droit international et humanitaire. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté notre invitation pour éclairer cette question des droits humanitaires en République démocratique du Congo, les problèmes qui se posent avec acuité. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous disons également merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. On se retrouve.